BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
C'est votre piste de décollage, rien qu'à vous, votre aéroport privé pour faire décoller vos performances. BFM Bourse vous accompagne jusqu'à 18h, bienvenue à tous et notre première étape de vol nous emmène à la Tour Euronext. Depuis le sommet de la Tour Euronext, il contemple les marchés européens et notre CAC 40. Étienne Brack est avec nous, rebonsoir Étienne, comment va le CAC aujourd'hui?
Bonsoir. C'est du rouge, troisième séance dans le rouge, ce qui n'est pas arrivé depuis plus de 15 jours à la Bourse de Paris. Un CAC 40 qui, souvenez-vous, en milieu de semaine était au-delà des 5700 points. Bon, bah là, il est sur des plus bas de 15 jours à 7547 points. C'est une baisse de 0,8%. Un CAC qui est sur les plus bas niveaux de la séance. Depuis ce matin 10h, ça ne cesse de glisser, malgré un petit rebond aux alentours de 15h. À noter les volumes d'échanges qui sont faibles, seulement 1,5 milliard d'euros négociés dans l'indice parisien. Beaucoup d'attentisme avant les législatives. Le débat cette nuit entre les deux candidats à la Maison-Blanche et puis surtout des entreprises qui pour l'instant communiquent dans le mauvais sens, que ce soit en Europe mais aussi aux États-Unis. Le marché qui ne fait pas de cadeaux, à chaque fois c'est du moins 10%. À noter que vous avez seulement 5 valeurs qui sont dans le vert à Paris. Du côté de Wall Street, vous avez une légère hausse sur les 3 indices américains et donc le CAC 40 qui plie à une demi-heure du fixing, moins 0,8%, 7550 points.
Une nouvelle fois, il sous-performe les autres marchés européens. Notre CAC aujourd'hui, il est en train de vivre pour l'instant son pire mois depuis quasiment deux ans, depuis septembre 2022. Le CAC 40, depuis le début du mois de juin, perd un peu plus de 5%. On va bien sûr en parler. Les États-Unis, la nuit prochaine, premier grand échange de la présidentielle entre Donald Trump et Joe Biden. Voilà, premier débat télévisé. Ce sera à vivre à partir de 2h30 du matin. Et puis, on parlera aussi d'investissement sur ces différents actifs à fort potentiel. Notre portefeuille idéal à partir de 17h35. On est à vos côtés, on joue dans votre camp BFM Bourse jusqu'à 18h. C'est parti.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Et notez d'ailleurs aux États-Unis le titre Levi's qui décroche littéralement Levi's parce que face à l'inflation, les consommateurs mettent de plus en plus de temps à renouveler leur gamme de jeans. Manifestement, Levi's perd 17% aujourd'hui sur le marché américain. On en parlait avec John Plassard depuis Mirabeau. C'était à 15h30 si vous l'avez raté le direct. Ça y est en ligne, enfin le replay plutôt désormais est en ligne sur notre application BFM Business. N'hésitez pas à la consulter. Nos experts du club sont là. Nos expertes ce soir, Valérie Gastaldi pour Day by Day. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Guillaume.
Et Julie Jourdan. Bonsoir Julie.
Bonsoir.
Gérante action américaine d'Amplegest. On va beaucoup parler du potentiel des marchés, mais aussi forcément de politique. À trois jours des législatives ici en France, et puis Julie, vous suivez très très près, vous, la présidentielle américaine. Alors on compte les jours, hein. On a compté, on est à 131 jours maintenant de cette présidentielle américaine, mais aujourd'hui, déjà un grand jour dans la campagne, puisque ce soir, les deux candidats vont échanger. Vous ferez quoi à 2h30 du matin, Julie, cette nuit?
Je ne suis pas sûre d'être en train de regarder le débat, mais non. En tout cas, je le suivrai très très près.
Voilà, cette confrontation tout à l'heure, c'est sur CNN hein, que ça aura lieu, oui. Effectivement. C'est la première fois d'ailleurs, ou c'est très rare, en tout cas, de voir un premier débat dans la campagne américaine, premier débat télévisé avant l'été. C'est très très rare là, ce qui va se passer.
Oui, c'est assez unique et le format est également assez spécial, enfin particulier, puisque les deux candidats répondront aux questions et auront leur micro coupé pendant que l'autre interlocuteur s'exprimera. Donc c'est vrai que c'est un débat qui n'a finalement de débat que le nom, mais néanmoins ça sera c'est extrêmement attendu, puisqu'on a deux personnages qui sont qui ont eu un mandat de président et qui revivent finalement le débat de 2020 avec chacun son bagage, avec ses réalisations pendant chacun leur mandat.
Donc, ils ont chacun un bilan, c'est vrai.
Ils ont chacun un bilan et ils ont chacun une envie de postuler à nouveau sur des thématiques de pouvoir d'achat également et de taux qui sont tout à fait importants.
Les programmes économiques sont-ils si éloignés que ça? On sait que sur les questions d'immigration ou les questions sociétales, oui, il y a un écart, effectivement, puis sur la forme aussi, clairement. Par exemple, on donne un exemple, Donald Trump a demandé à ce que Joe Biden passe un test anti-drogue avant ce débat. Bon, bref, voilà le niveau. Mais sur les questions sur le fonds économique, est-ce qu'il y a un écart de stratégie, un écart de perspective, un écart de vision même entre les deux candidats si important que ça cette année?
Alors, l'écart, il y a des écarts, ils ne sont pas extrêmement important, mais il y a des sujets. Par exemple, les impôts, typiquement, c'est un gros sujet sur lequel les deux candidats ne sont pas en accord du tout. Typiquement, lors du premier mandat, enfin du mandat de Trump, en 2017, plusieurs dispositions fiscales ont été décidées, notamment la baisse de l'impôt sur les entreprises, hein, qui sont passées, le taux d'imposition est passé de 35 à 21%, mais également pour les ménages. Une partie de ces dispositions arrive à expiration en 2025. Et sur ces dispositions-là, on a vraiment deux visions complètement différentes, avec d'un côté Trump qui est pour pérenniser des baisses d'impôts, voire accentuer des baisses d'impôts, quand Joe Biden est plutôt dans l'idée d'avoir en fait une plus grande progressivité de l'impôt et une augmentation de la taxation, notamment des rachats d'actions. Donc on a des visions qui sont assez divergentes de ce point de vue-là. Même si on a aussi des éléments sur lesquels on a beaucoup de...
En matière de protectionnisme, par exemple, ils sont tous les deux sur la même ligne, renforcer encore le protectionnisme, ou il y en a un qui veut aller beaucoup plus loin que l'autre là-dessus?
Alors, là-dessus, on va dire, il y a la Chine et puis il y a le reste.
Oui.
Donc, sur la partie Chine, on a quand même une continuité dans le mandat de Biden après celui de Trump. Alors, on le sait, Trump veut augmenter les taxes globalement sur tous les produits importés avec une taxe minimum de 10% et 60% pour les produits en provenance de Chine.
Et ce qui serait quand même un énorme gap à la hausse, là.
Ce qui serait absolument colossal. Après, on verra dans la réalité. D'abord, il faudrait qu'il soit élu. Et la deuxième chose, c'est est-ce que véritablement, ça sera 60% ou pas. Mais quand on regarde ce qu'a fait le président Biden très récemment, avec sa hausse des droits de douane sur les véhicules électriques à 100% et sur d'autres produits tels que les semi-conducteurs ou encore l'acier, on voit bien qu'il y a quand même cette volonté de renforcer, de se protéger en tout cas des exportations en provenance de Chine.
C'est devenu ça un sujet manifestement consensuel dans la société américaine. Est-ce que vous regarderez ce débat? On va le diffuser sur BFM TV, hein, faudra pas le rater, et traduit en français en plus, 2h30 du matin. Est-ce que vous serez devant votre télévision, Valérie, en toute honnêteté? Oui,
non,
elle dit oui.
Non.
Faudra écouter BFM Business pour les comptes rendus.
Bien sûr, j'écouterai le compte rendu.
Très très important, Ben Aoudab Dedaïm et toute la matinale autour de Laure Clausier. Est-ce que vous sentez une interrogation du marché avant cette présidentielle américaine, ou c'est un non-sujet sur les marchés pour l'instant, Valérie?
Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un non-sujet pour le moment sur les marchés financiers, que ce soit sur le marché obligataire où on est, bon, selon l'horizon de temps qu'on va prendre, on est attentiste sur quelques semaines, et d'ailleurs même à un petit peu plus long terme, on n'a pas, on reste dans un couloir depuis un an et demi où on va un peu à la hausse, un peu à la baisse, mais il n'y a pas une direction franche, et on réplique ça, on fait ça aussi sur le dollar, pas contre toute devise, mais en tout cas contre l'euro, contre la livre sterling, un petit peu moins contre le franc suisse, mais enfin contre pas mal de devises. Donc non, on est avant tout dans une situation d'attentisme, mais il n'y a rien qui a changé pour le moment sur toutes ces tendances.
Wall Street, aujourd'hui, progresse un petit peu. Pas beaucoup, mais quand même, légère hausse aussi bien du S&P 500 que du Nasdaq en ce moment. Le Nasdaq gagne 0,1%, le S&P plus 0,01%, c'est très léger. En revanche, à Paris, on accélère à la baisse. Moins 1,1% sur le CAC 40, sous les 7006, largement 7526. C'est une nouvelle fois aujourd'hui, le CAC signe la plus forte baisse, l'une des plus fortes baisses en Europe. Le CAC sous-performe, troisième baisse d'affilée. Est-ce que oui, vous sentez le stress un peu monter sur la France à nouveau à l'approche du premier tour des législatives, Valérie?
Bah oui, c'est normal. C'est un comportement assez typique d'avoir une réaction en deux temps. On a eu la première réaction juste après la dissolution de l'Assemblée nationale. On est allé chercher un premier creux, un rebond qui a été extrêmement faible. Et donc, on doit retourner tester le précédent creux pour décider si en France, il faut aller un petit... On peut aller plus bas que le précédent creux en France. Avant les résultats du second tour, notamment... parce que pour un gérant, pour beaucoup de gérants, on est quand même obligé de dire que à tout le moins on a couvert son portefeuille face au risque. Le risque que ça se passe mal existe, on peut pas l'ignorer. Et donc, il faut se couvrir, il faut alléger. Les investisseurs étrangers n'ont pas très confiance dans ce qu'on peut faire en France et préfèrent se porter sur d'autres marchés. Donc oui, c'est tout à fait logique.
Mais pourquoi est-ce qu'on voit plus de tension, par exemple, sur les actions que sur l'obligataire? On regarde chaque jour là, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, entre le 10 ans français et le 10 ans allemand, il est à 74 points. Ça se tend un tout petit peu, mais c'est vraiment pas méchant. 74 points, on est à 3,19 là sur le 10 ans français. Donc on voit que sur l'obligataire, c'est à peu près stable, alors que sur les actions, on recule. Comment on explique cet écart de comportement?
Bon, d'abord, sur les actions, les investisseurs sur les marchés actions ont beaucoup plus de mal à établir la valeur dite fondamentale que sur les marchés obligataires. Sur les marchés obligataires, on fait les prix de façon relative. Donc, on compare continuellement. On a des énormes matrices et on compare la France 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans par rapport à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne. Et donc, tout ça, ça donne des bornes. Alors que quand il s'agit de comparer ce que vaut Stellantis à BMW, quelles sont les bornes? Comment évoluent ces bornes? C'est extrêmement difficile à fixer. Donc, ça donne beaucoup plus de marge dans les évolutions et ça donne beaucoup plus de volatilité au marché actions de façon systématique. Et dans tous les événements dans lesquels l'incertitude est élevée et où on ne sait pas du tout comment faire un prix, les marchés obligataires sont beaucoup plus aptes à prendre en compte les probabilités d'occurrence des événements futurs que les marchés actions qui ont tendance à surestimer toujours les événements rares.
Romain Daubry, qui nous accompagne très régulièrement, qu'on retrouvera à 17h35 depuis Bourse Direct, nous expliquait tout à l'heure, ce sont ces termes. Le marché se prépare au pire. C'est ce qu'il voit dans le comportement, dans le profil de la baisse et dans l'évolution de la volatilité sur le CAC 40. Alors, il faut que vous nous parliez un petit peu de ça aussi, les options, etc. Voilà, comment on arrive à mesurer stress aussi à travers la volatilité. Le VCAC, bon, qui monte à 24, il était à 21 hier, donc sur l'indice parisien, 21 hier, 24 aujourd'hui. Alors que sur l'Eurostock 50, c'est stable. Et aux États-Unis, on est très loin en dessous, à 12 seulement pour le VIX. Donc, la volatilité sur le marché français est deux fois supérieure à celle sur Wall Street. Comment vous regardez ça? Est-ce que vraiment cet indice, ce regard sur la volatilité est fiable? Enfin, voilà. Est-ce que là, on a un indicateur sous-jacent aussi du vrai état d'esprit des investisseurs?
Bon, il y a plusieurs questions en même temps.
C'est technique, mais
alors,
c'est fondamental.
La volatilité sur le... Quand on parle de volatilité, le VIX, c'est un indice de volatilité. La volatilité sur le CAC 40, c'est une mesure instantanée de la volatilité. Donc, pour des gens qui opèrent à court terme, très court terme, c'est pas très fiable cette volatilité sur le CAC 40. Si on veut avoir un regard avec beaucoup de recul, à ce moment-là, c'est quand même intéressant. Et effectivement, si on compare par exemple la volatilité implicite des États-Unis à celle de la France, du simple au double, d'habitude l'écart est beaucoup plus faible. Oui. Je me souviens plus de la volatilité implicite sur le DAX, mais elle doit être à 13, un truc de ce goût-là.
Contre 24 pour la France.
Contre 24 pour la France. Peut-être qu'elle a un petit peu remonté aussi sur le DAX, mais enfin, on est nettement plus bas que sur la France. Donc ça veut dire que les investisseurs, avant tout, se sont portés acquéreurs d'assurance sur la France. Donc qu'effectivement, ils ont déjà pris en compte une bonne partie des risques sur la France. Est-ce qu'ils ont pris en compte tous les risques ou pas? C'est-à-dire, la question qui, pour moi, reste pour ces élections, c'est est-ce qu'ils ont pris en compte autre chose qu'un léger progrès du Front National, donc par exemple un Front National à 33-34%, et pas comme clame Marine Le Pen, une majorité absolue à l'Assemblée, ou un pourcentage très élevé pour le Front Populaire, mais ça sortirait uniquement après le second tour. Il y a peu de chances pour que ce soit après le premier tour qu'il chope toutes les voix du centre, disons. Donc, voilà, ces scénarios qui sont un peu extrêmes, a priori, ils ne sont pas encore pris en compte, parce que justement, le marché obligataire, lui, ne les prend pas en compte. Donc, ce que le marché obligataire a pris en compte, c'est qu'il y a une progression, enfin, à mon avis, c'est qu'il va y avoir une progression effectivement du Rassemblement National à l'Assemblée, mais que finalement on va avoir un gouvernement qui sera d'abord peut-être long à être nommé et qui ne va pas faire grand chose en termes de dépenses budgétaires. Il va un peu accroître les dépenses budgétaires, surtout on va rester dans une situation dans laquelle on ne saura pas à terme, aux élections présidentielles et dans le temps avec d'autres dissolutions, d'autres remaniements, etc., comment les choses vont évoluer. Donc ça vaut une prime de risque, cette incertitude dans laquelle on va demeurer. Mais en revanche, le pire n'est pas encore dans les prix, parce que le pire, qui serait effectivement des dépenses jugé inconsidéré par les marchés financiers, ça serait un spread entre l'Allemagne et la France qui irait au-delà de 80 points de base.
Oui, oui. On est à 74 là, alors on rappelle...
C'est 80 la limite.
Oui, oui. On a un tout premier sondage qui nous dit une majorité absolue du RN devient possible, qui a été publié hier soir. Bon, il est encore isolé ce sondage, mais il faut se méfier des dynamiques, effectivement, et puis la participation qui va jouer, plus il y aura de participation et plus il y aura de triangulaire. S'il y a plus de triangulaire, ce sera peut-être aussi plus favorable au RN. Bon, tout ça est encore hypothétique et à suivre. En tout cas, pour l'instant, vous nous dites que le marché ne price pas le pire. Et c'est vrai qu'au RN, il y a eu beaucoup d'allers-retours sur le programme. Il a énormément évolué, là, le programme économique, en à peine 10 jours. Et c'est une question qu'on posait tout à l'heure à Gilles Mouek, le chef économiste du groupe AXA. On lui demandait, voilà, le RN a revu de fond en comble quand même son programme économique en à peine 10 jours. Est-ce que les marchés peuvent lui en faire crédit en se disant, bon, bah, c'est un peu plus sérieux maintenant? Ou au contraire, le marché va se dire, si le RN arrivait au pouvoir, bah, dites donc, ces gens-là, ils ont changé leur programme en à peine 10 jours. Quand ils vont nous parler de leur politique économique, est-ce qu'il faudra les croire?
Bah, on peut pas les croire. Ça, c'est pas, je pense que les marchés va attendre de voir.
Il voudra voir pour croire.
Bah, oui.
Il ne croira pas sur parole.
Non. Enfin, j'en doute, quoi. Il y a eu trop de changements. Et en fait, c'est creux. Enfin, on ne sait pas du tout ce qui va se passer économiquement. Hein.
Et la parité euro-dollar, il faut la suivre aussi, cette parité. Ouais. L'euro s'installe sous le dollar 0,7, hein, mine de rien. Voilà, on a quand même un petit impact. Ouais. On peut dire que c'est les législatives françaises aussi qui pèsent un peu sur l'euro, là.
Oui, a priori, aussi, a priori un peu.
L'euro, en ce moment, vaut 1 dollar. Allez, il suffisait que je le dise pour que ce soit contrarié, contredit. 1,0707. Mais enfin bon, on était resté quelques heures sous le dollar 0,7. Dans un instant, on va bien sûr vivre la clôture des marchés. Ce sera dans un quart d'heure. Étienne Braque sera avec nous depuis la tour Euronext. Une clôture vers laquelle on se dirige. On entre dans la dernière ligne droite et on accélère. Et là, ça la baisse. Le CAC perd désormais 1%. 7537 points. Stellantis, lanterne rouge à l'instant, moins 4%. Kering, plus forte hausse portée par Bank of America, qui relève son conseil sur Kering de sous-performance à neutre, plus d'optimisme sur l'avenir de Gucci chez Bank of America, si bien donc que Kering gagne 4,6% en ce moment. Étienne nous livrera tout le détail de cette clôture dans un instant. Valérie Gastaldi nous accompagne, Julie Jourdan également. Julie, vous regardez tout ça, ce qui se passe sur la France avec un regard un peu lointain, vous suivez essentiellement le marché action américain, mais on regardait avec Étienne CNBC, par exemple, l'une des principales chaînes économiques américaines. CNBC, bien sûr, qui parle du débat à venir la nuit prochaine entre Donald Trump et Joe Biden. Bien sûr qu'ils en parlent. Mais vous voyez aussi régulièrement à la une le visage de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. C'est un sujet aussi pour les Américains, manifestement.
Je pense qu'ils sont quand même assez... on l'a vu dans les politiques récemment, ils sont assez curieux de ce qui se passe en Europe, bien évidemment, mais ils restent quand même très concentrés, en fait, sur ce qui se passe aux États-Unis. Les élections sont encore un petit peu lointaines pour eux. Pour eux, l'Europe peut être un sujet de préoccupation, et c'est vrai que c'est ce que l'on voit un peu sur le dollar. Hein. C'est l'Europe fait paraît un petit peu plus sujet de préoccupation aujourd'hui pour les Américains, en tout cas pour les investisseurs américains, à défaut de... Voilà.
Effectivement. On pensait avoir un méga-trend devant nous, celui de l'intelligence artificielle pour Wall Street. Alors, on le pense toujours un peu, mais plus totalement, parce qu'on voit qu'il ne suffit pas qu'une société soit bien positionnée sur l'IA pour s'envoler. C'est plus le cas. Micron, le géant des puces, qui est très bien positionné dans l'IA aussi, pour fournir Nvidia notamment, Micron a publié ses perspectives qui sont pas mauvaises, qui sont conformes aux attentes, qui sont positives, mais comme Micron est aussi exposé à la vieille économie, le titre aujourd'hui est sanctionné, parce que les perspectives sont pas suffisamment meilleures qu'attendues. Voilà, maintenant le marché veut vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus que plus, et donc ce titre Micron est en repli à Wall Street de 7%, malgré son exposition à l'IA et malgré le fait que l'IA porte ses perspectives quand même. Il suffit plus d'être bien exposé à l'IA pour que cette IA soit un blanc-seing boursier. Est-ce qu'on est sur un changement de pied du coup vis-à-vis de l'IA, une autre façon d'aborder l'IA qui est en train là d'entrer en œuvre là aux États-Unis notamment et aussi en Europe?
Alors moi j'en suis pas du tout persuadée. Je pense qu'il y a toujours besoin, on a toujours besoin de respiration sur les sociétés là. En ce qui concerne Micron, ça ressemble plus à une respiration qu'à autre chose. Après un titre qui a progressé de 65% hein, depuis le début de l'année. Alors c'est vrai que les publications de résultats montraient aussi une très forte croissance des ventes et de l'autre côté des perspectives qui étaient extrêmement soutenu. Ce qui compte aujourd'hui, c'est effectivement de se rendre compte qu'on est en train de bâtir un certain nombre d'infrastructures. Et dans le cadre de ces infrastructures, il y a des choses choses qui vont aller très vite, d'autres un petit peu moins vite. Il y a assez peu d'acteurs aujourd'hui qui sont très bien positionnés sur l'IA. Micron en fait certainement partie, Broadcom en fait partie, et Nvidia bien évidemment, et beaucoup d'autres. Et donc le marché va réagir de manière de temps en temps un petit peu nerveuse sur des publications. Là, en l'occurrence, on a des dépenses d'investissement qui sont un petit peu supérieures, ce qui n'est pas en incohérence avec leur développement. Voilà, il peut y avoir des respirations sur un certain nombre de titres. Ça ne remet pas en cause, en tout cas c'est notre sentiment chez AmpleGest, ça ne remet pas en cause du tout le fait que l'intelligence artificielle continue d'être un vecteur extrêmement important de dépenses, d'investissement. On le voit bien, hein, c'est plus de 200 milliards dont on parle, et de changements à venir. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est à venir. Aujourd'hui, on est vraiment dans la construction des infrastructures. Demain, on sera dans la proposition des services. Oui. Et on en a aujourd'hui assez peu. Et on commence à voir émerger ces services, mais on n'en est vraiment qu'aux prémices.
Donc, pour ceux qui espèrent, grâce à l'IA, réaliser de belles paires boursières, vous dites qu'il faut être prêt à anticiper le prochain cycle de l'IA, à savoir celui des services, des logiciels, plus que des puces ou des semi-conducteurs. Et c'est là-dessus qu'il faut plutôt se positionner aujourd'hui. Enfin, la question, c'est de savoir s'il est possible d'investir dans l'IA sans devenir le mouton d'NVIDIA. Enfin, en restant un homme et un investisseur libre, en quelque sorte.
En fait, être le mouton d'NVIDIA depuis un an et demi, ça marche plutôt pas mal. Hein. On va pas se... Voilà,
nous, beaucoup de laine.
On est investi dans NVIDIA et c'est vrai qu'on trouve que ça marche plutôt bien d'être mouton sur NVIDIA. Il y aura d'autres sociétés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans cette phase de création. Dans cette deuxième phase, aujourd'hui, on ne connaît pas les gagnants, on ne connaît pas les perdants. Oui. Ce que l'on sait, c'est qu'on a des sociétés qui investissent énormément là-dedans et qu'elles ont les moyens d'investir. Et ce que l'on sait également, c'est que par exemple, des acteurs comme Microsoft qui ont lancé des offres de services comme le Copilot, on devrait commencer à avoir des chiffres l'année prochaine. C'est ça qui est important, c'est de commencer à voir dans quelle mesure, premièrement, c'est adopté par les clients, dans quel secteur, pas que chez les développeurs, mais chez les développeurs prioritairement, mais après, comment ça se diffuse. Et deuxième élément, comment finalement ça augmente la productivité. Et ça, on va le savoir progressivement. Alors, on a également un groupe comme Intuit qui a commencé à proposer des services dans ses logiciels, en fait, pour aider à remplir ses déclarations d'impôts aux États-Unis. On a vu également Adobe qui a commencé, là aussi, à proposer des choses. Mais voilà, on n'en est qu'au début. Et on n'en est encore vraiment qu'aux prémices.
Valérie, on arrive aussi avec le mois de juillet qui approche dans la saison de publication des résultats. Est-ce que vous sentez que cette saison et le profil des marchés pourraient peut-être aider à déclencher une rotation sectorielle, un peu moins de dépendance vis-à-vis de l'IA et de la tech dans la hausse des marchés, et peut-être un peu plus d'équilibre dans les performances ou pas?
Bon, prévoir le futur, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il y aurait une rotation sectorielle. Enfin, sincèrement, je sais que pour beaucoup de gens, ce qui a monté doit baisser parce que c'est un espèce de sens de l'équité. Voilà, qu'ils aimeraient voir sur les marchés financiers. Les marchés financiers, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de jugement à avoir. Ce n'est pas parce qu'une société monte qu'elle fait des bons produits ou qu'elle est bien gérée. Ça n'a absolument rien à voir. Actuellement, on a peut-être des marchés qui sont trop polarisés. C'est l'avis de certaines personnes. Ça fait quand même
c'est pas
40 ans, je crois, bientôt, que je suis sur les marchés financiers. En tant que stagiaire au début, mais enfin, voilà. Et des bulles et des cracks, j'en ai vu plein. Donc, même quand vous avez la suspicion qu'il y a une bulle qui se développe, c'est pas pour ça qu'il faut aller contre. Voilà. Il faut savoir être mouton. Et c'est très désagréable et beaucoup de gens pensent que c'est plus valorisant de trouver le point haut, mais il n'y en a qu'un, que d'être mouton. Mais pourtant, c'est beaucoup plus payant d'être mouton que d'être contrariant.
Oui. Donc,
voilà. Donc moi, je n'anticipe pas de changement tant que je n'ai pas la preuve d'un changement. Mon métier, c'est de faire la différence entre les changements qui ne sont pas durables et ceux qui le sont, et de faire cette différence au plus tôt possible.
Oui. Et donc, l'IA, enfin, bien sûr, ça va me dire, ça va dépendre des valeurs et tout, mais il n'y a pas de signaux de bulle à ce stade sur la tech, malgré l'extrême concentration des indices.
On est dans une accélération haussière. Donc, bien entendu, qu'on a tout un ensemble de signaux qui nous montrent que la confiance est en train de s'accroître grandement. On a des discours qui deviennent très, très positifs et un petit peu trop concentrés. Mais ça peut durer 2 jours, ça peut durer 2 mois ou 6 mois encore.
Oui.
Voilà, il faut savoir attendre.
Le pire n'est jamais certain, ça il faut le retenir, et surtout sur les marchés. Étienne nous appelle, la Tour Euronext, dans 7 minutes, ce sera la clôture, on va la vivre ensemble. Grâce à vous Étienne, comment se présente cette nouvelle séance, l'avant-dernière du mois de juin sur le CAC 40 ?
Eh bien, écoutez, le CAC 40 s'enfonce de plus en plus dans le rouge, au point qu'il est quasiment sur les plus bas niveaux de la séance, 7530 points à l'instant. Ça y est, le CAC perd un peu plus d'1%, troisième séance dans le rouge depuis son plus haut de lundi, plus haut de la semaine. Le CAC 40 cède désormais un peu plus de 2%, à noter des volumes d'échanges qui sont absents, toujours très peu de convictions. Et du côté de Wall Street, c'est le calme plat également, avec 3 indices américains qui font du surplace. Et puis Amazon, qui a franchi hier soir pour la première fois la barre des 2000 milliards de valorisation boursière, continue de gagner du terrain quand Nvidia recule dans le sillage de Micron, qui a perdu plus de 5% l'ouverture après des perspectives qui ont un petit peu déçu Wall Street. Après, il ne faut pas l'oublier, un très beau parcours puisque le titre a plus que doublé en l'espace d'un an.
Effectivement, on est à 3 jours des législatives, on va vivre cette fin de séance ensemble. Étienne nous fera vivre cette clôture dans un instant, mais d'abord 17h29, on entre dans la data room. C'est votre date avec les data. Les données valent de l'or. Aujourd'hui, on vous les fournit sur un plateau chaque soir, avant la clôture. Julie et Valérie, êtes-vous prêtes ?
Oui.
Vous avez chacune, 1 minute pour nous présenter une data forte. On va démarrer, Julie, avec votre chiffre. Votre data ce soir, c'est 2000 milliards de dollars.
Oui, alors 2000 milliards de dollars, en fait, c'est la capitalisation boursière, c'est le niveau de capitalisation boursière qui a été dépassé hier par Amazon. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'elle rentre dans le club très fermé des 5 plus grosses capitalisations boursières mondiales. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle venait presque frôlé depuis quelques semaines. Mais ce que l'on voit, c'est que le déclencheur, en fait, de ce franchissement, encore une fois, est relatif à l'intelligence artificielle. Puisqu'hier, un de ses investissements importants, 4 milliards de dollars dans une société qui s'appelle Anthropic, qui est un concurrent de OpenAI, eh bien, a annoncé le fait de proposer la troisième version de son logiciel d'intelligence artificielle qui s'appelle Claude. Et c'est une proposition de valeur qui est un petit peu différente de ChatGPT, puisqu'elle propose notamment tout ce qui est projet collaboratif. Donc une proposition de valeur assez différenciante, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a porté et qui a accéléré en fait en séance le fait que Amazon franchisse ce seuil-là. Donc c'est quand même, ça nous ramène toujours à l'intelligence artificielle en ce moment.
Effectivement, et d'ailleurs c'est l'objet de la question qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs sur les réseaux sociaux, le fil X et le fil LinkedIn BFM Bourse. N'hésitez pas à continuer de répondre à cette question qu'on vous pose. Après Amazon, qui vient donc de franchir les 2000 milliards de dollars de capi, à qui le tour ? Qui sera le prochain d'après vous ? Est-ce que ce sera Meta ? Est-ce que ce sera Saudi Aramco ? Est-ce que ce sera Eli Lilly, les médicaments anti-obésité, Eli Lilly, ou encore Tesla ? 4 options. À votre avis, Julie, ce sera qui, là, le prochain sur la liste ? Qui franchira à son tour les 2000
milliards ? Dans les valeurs américaines, donc j'ai exclu
Saudi Aramco.
Voilà, exactement. Celle qui s'en rapproche le plus aujourd'hui, c'est Meta, qui a un peu plus d'1,3 milliard, et qui a aujourd'hui un nombre de clients dans le monde, en tout cas d'abonnés, qui est extrêmement important, avec un chiffre d'affaires extrêmement important. Mais on verra s'ils arrivent à capitaliser là-dessus. L'avenir n'est jamais certain et ni écrit.
Ça vous émeut, Valérie, de voir des valeurs franchir les 3 000 milliards de capi ?
Alors, pas du tout, parce que ça change tous les jours. Donc
ouais. c'est la course de petits chevaux, c'est ça, un peu comme, ouais. Comme ça que vous le voyez.
Oui, ouais. Non, c'est pas stable.
Julie s'est montrée généreuse en data. À vous, Valérie, votre chiffre ce soir, 160,3.
Oui, c'est un petit chiffre, 160,3.
C'est pas mal. Mais
c'est donc le cours du dollar-yen. Donc pour un dollar, on a plus de 160 yens aujourd'hui. C'est un cours qu'on n'avait pas vu depuis avril 1990, donc c'est un plus haut sur 34 ans. Et en fait, c'est vraiment un niveau clé dans l'articulation de long terme de la parité dollarienne.
Donc le yen est un plus bas de 34 ans face au dollar.
Ouais.
Ça remonte à votre quand vous étiez stagiaire justement, vous nous en parliez tout
absolument,
à l'heure.
Absolument. Ouais. Oui. Alors enfin on est il était même encore plus bas à l'époque. Je suis allée au Japon à du 400 yens au dollar, voilà. Donc c'était encore plus vieux. Bon, alors est-ce que ça compte? Il peut y avoir des mécanismes un petit peu complexes qui font que ça vienne toucher nos marchés par toute une série de ricochets, mais c'est pas tellement ça qui m'a intéressé. C'est que pour le Nikkei, enfin les indices japonais ont accompagné la baisse de leur devise. En fait, il y a des mécanismes d'arbitrage qui font que il faut s'attendre à chaque fois qu'une devise perd 1% que par défaut la bourse gagne 1%. C'est la situation à laquelle il faut s'attendre avant tout. Si la bourse gagne plus que 1% quand la devise perd 1 ou si elle en perd en même temps que la devise baisse, alors là vous avez des cas qui peuvent être intéressants à repérer. Et en fait, pour le moment, le Nikkei, le Topix, le MSCI Japan, quel que soit l'indice japonais que l'on regarde, il n'a pas encore, si on l'exprime en dollars ou en euros, il n'a pas encore franchi ses précédents sommets, alors que en yen, il a franchi ses précédents sommets, mais donc c'est avant tout l'effet de la devise. Donc, soyez un petit peu vigilants. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire le Nikkei, l'Asie, c'est extraordinaire. Il faut absolument aller se positionner dessus. Ça faisait partie de vos questions. Faut-il se positionner sur les marchés émergents? Le Japon n'est pas un émergent. Mais enfin, l'Asie, etc. Si vous voulez absolument aller en dehors d'Europe et un peu en dehors des États-Unis, parce que la diversification, c'est pas stupide quand on a une vision un peu longue, moi, je vous conseillerais plutôt d'aller vous tourner vers la Corée. Si l'économie arrive un petit peu à se remettre au Japon, ce qui n'est pas du tout gagné, hein, je ne discuterai pas des choix de la banque centrale, qu'à la face à elle, etc. Mais on en a pour un petit moment. Mais justement, parfois, c'est intéressant d'examiner la Corée. Je vous ouvre cette porte aujourd'hui, à partir de ce chiffre. Vous cherchez de la diversification. Étudiez un petit peu le dossier coréen pour les mois qui viennent.
Et vous estimez qu'il faut absolument diversifier par rapport au marché français et européen compte tenu du contexte politique?
La diversification, c'est ça le message, c'est quand même une règle de base. Si vous avez des gens qui veulent construire un portefeuille, c'est bien d'avoir une certaine diversification, parce que sinon, on a de la volatilité. Et la volatilité, c'est quelque chose qui crée de l'émotion et qui donc mène à des bêtises. Donc il faut l'éviter.
La Data Room chaque soir. Valérie Gastaldi, stratégiste pour Day by Day. Julie Jourdan, gérante action américaine pour Ampleger. Et toutes les deux à 3h du mat savent ce qu'elles feront. La nuit prochaine, à 3h du matin, elles regarderont le débat entre Joe Biden et Donald Trump. Premier grand débat de la présidentielle américaine à suivre sur BFM TV. Hein. Il sera traduit d'ailleurs ce débat en simultané en français. Merci à toutes les deux. Et dans un instant, c'est la clôture. Il nous la traduira, il nous la fera vivre en direct. Étienne Braque sera avec nous depuis la tour Euronext. A tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse. La clôture à Euronext.
Étienne Braque avec nous. Rebonsoir Étienne. Avant-dernière clôture de ce mois de juin, comment le CAC termine-t-il aujourd'hui?
Du rouge, troisième séance dans le rouge pour le CAC 40 qui repasse sous les 7600 points. 7530 points, c'est une baisse de plus d'1% pour le CAC 40 qui clôture à 8 points des plus bas niveaux de la séance. 3,2 milliards d'euros négociés ce soir dans l'indice parisien, plus de la moitié du volume qui s'est fait au fixing. Beaucoup d'attentisme, hein, une fois de plus, avant le débat cette nuit aux États-Unis, les élections législatives, des entreprises qui, quand elles communiquent des mauvaises nouvelles, se prennent des moins de 10%. Hein, c'est le cas aujourd'hui d'H&M. En début de semaine, c'était Airbus. Regardez ce qui se passe du côté de Lévi-Strauss à Wall Street qui perd plus de 15% ou encore Walgreens qui perd plus de 10% aux États-Unis. Donc dans ce contexte, les investisseurs patientent, attendent de voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines au niveau des entreprises et puis surtout au niveau politique, géopolitique. À noter ce soir que Kering est de loin ce soir la plus forte hausse du CAC 40, plus 4,6% avec un relèvement de recommandation, 341 euros pour la valeur, suivi de Unibail, Téléperformance, Safran ou encore Renault. Ce sont les seules hausses du CAC 40. À l'inverse, Edenred ferme la marche, moins 4%, 40,32%. Stellantis plus ou moins 4%, suivi de L'Oréal qui perd 3,3% à 422 euros. A noter que la bourse de Milan perd également 1% comme le CAC 40. La grève à Milan chez Euronext suite à des syndicats qui dénoncent des manques de moyens n'a pas eu d'impact sur le déroulé de la cotation, hein, puisque tout est informatisé puis ça a été réorienté vers d'autres places boursières. Moins 1% donc à Milan quand l'Eurostox 50 de son côté perd 0,3%. A l'inverse, le DAX se reprend plus 0,3% ce soir à la clôture du côté des sociétés qui font l'actualité. OVH, après la publication de ses résultats, gagne 14%. Wow. Et puis vous avez également Figeac Aéro qui gagne un peu plus de 5% après la publication de ses résultats. Exercice décalé à ce sujet, son patron, ça l'invite d'Edwige Chevrillon ce soir à 18h10. Le CAC 40 donc qui clôture en repli, troisième séance dans le rouge, hein, ce qui n'est pas arrivé depuis 15 jours à la Bourse de Paris. 7530 points, un plus bas de 10 jours pour le CAC 40 et donc 3,2 milliards d'euros négociés ce soir dans l'indice parisien.
Romain Daubry depuis Bourse Direct nous accompagne comme chaque soir. Oui, plus d'1% de repli sur le CAC ce soir qui recule une nouvelle fois beaucoup plus le CAC que les autres marchés européens. Décidément, le CAC 40 sous-performe. Quel signal y voyez-vous pour la suite à 3 jours des législatives, Romain ?
Il y a une prudence qu'on pressentait, qu'on indique depuis quelques jours, qui est confirmée avec un indice qui vient se remettre pile au-delà du niveau d'alerte 7507-7530. C'est le niveau à ne pas rompre au risque d'accélérer de environ 300 points, un peu moins, pour aller chercher 7223 points. Aux alentours, le dernier support avant une accélération baissière beaucoup plus marquée. On a toujours un niveau de stress qui est important. On l'indiquait, la volatilité qui sur l'indice CAC 40 est à 24, tandis qu'elle reste à 12,5 sur le S&P. Oui. Voilà des marchés qui sont tendus. Il faudrait vraiment déborder 7 790 points pour neutraliser ce mouvement de baisse.
Oui, la volatilité à 24, vous le disiez, sur le marché parisien, contre 12 sur le marché américain, 17 sur l'Eurostock 50. Donc il y a vraiment un vrai point de sensibilité des marchés des investisseurs internationaux sur la France. On va en parler avec nos experts. Vous restez avec nous, Romain. BFM Bourse se poursuit jusqu'à 18h. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Avec pour nous accompagner ce soir également Aymeric Lang pour Erasmus Gestion. Bonsoir Aymeric.
Bonsoir Yann.
Eric Blaine depuis les bureaux de Swiss Life Banque Privée en vidéo. Bonsoir Aymeric. Ravi de vous retrouver également. Et Romain Daubry qui nous accompagne aussi. Bon, oui, il y a du stress quand même sur le marché. Le CAC 40 ce soir recule de plus d'1%. Troisième baisse d'affilée. Et depuis le début du mois de juin, il perd plus de 5%. Le CAC est en train de vivre, Aymeric, son pire mois depuis septembre 2022. Et c'est une exception française. Alors, on parle toujours de l'exception française. Eh bien, il y en a une là sur les marchés internationaux. C'est le CAC 40 qui sous-performe face aux autres marchés européens. Comment est-ce que vous vous sentez en tant que gérant action, pas mal exposé aussi à la France là?
Je pense que c'est rare que le risque politique ait un impact très marqué sur les marchés. Là, c'est très clair que pour la France, il en a un. Et je pense à juste titre, vu les incertitudes d'un point de vue budgétaire notamment, et ce qui veut dire incertitude budgétaire dit également hausse des taux qui pourrait avoir un impact très fort sur les actifs financiers. Donc très clairement une exception française qui est dans le mauvais sens, avec beaucoup d'incertitudes qui est pricée immédiatement par le marché.
Effectivement, Eric, même question, le CAC ce soir sous-performe largement les autres marchés européens, le CAC perd 1% quand l'Eurostock 50 a perdu à peine 0,2%, il y a un vrai écart là.
Ben oui, on est quand même à l'avant-veille du premier tour des élections législatives, on sait bien que c'est une période d'incertitude avec une potentielle volatilité importante la semaine prochaine. En fonction de ce que le fonds populaire va réussir à faire en termes de résultats, c'est pas étonnant qu'il y ait un petit mouvement d'inquiétude hein, quand même. Je pense que ça exprime un peu les choses. Quand on regarde l'écart de taux entre l'Allemagne et la France, il s'est un petit peu écarté. On était autour de 0,75 points de base. Hier, hein, on est en train de remonter au-dessus de 0,80, 0,82 là ce soir. Donc ça se traduit immédiatement dans les cours de bourse de la place parisienne. Aujourd'hui, les obligations françaises sont plus chères que les obligations portugaises.
Effectivement. Bon, après, il n'y a pas d'incendie sur le marché obligataire, mais ce qui est frappant aussi, c'est qu'on voit plus de réactions, plus de sensibilité sur les actions en ce moment que sur l'obligataire. L'écart de taux avec l'Allemagne est stable. Il est stable, faut aussi le dire. Hein. On n'est pas sur un incendie, pas encore. On est à 74 points d'écart de taux aujourd'hui entre les 10 ans français et allemands. Mais Romain, vous nous le disiez sur la volatilité, par exemple. On a une volatilité sur le marché parisien que vous arrivez à calculer à 24, bien plus élevée que sur les autres marchés européens. Est-ce que cet indicateur-là est véritablement révélateur de l'état d'esprit des marchés ou on est dans de la spéculation pure malgré tout aussi à quelques jours de ce premier tour?
Ah non, je pense que ça révèle vraiment l'état d'esprit des opérateurs. Il faut expliquer, rappeler que la volatilité, on la mesure du prix des options. C'est-à-dire que c'est une mesure objective du prix auquel on s'assure, auquel on se protège. Donc, il pourrait y avoir de la spéculation, mais en l'occurrence, c'est bien le fait que, l'assurance coûte cher à Paris. Tout simplement, hein, si vous voulez assurer votre maison, vous allez voir votre assureur en temps normal, il y aura un prix indiqué classique. Si on annonce qu'il va y avoir des tempêtes dans la région, le prix d'assurance va augmenter. Bah, là, évidemment, tout le monde est en train de se protéger, donc le coût de l'assurance augmente. augmente et c'est vraiment une mesure du stress. Alors ça ne veut pas dire qu'il y ait quelque chose de dur qui soit à venir. Au contraire, quand tout le monde est prévenu, c'est souvent quelque chose d'autre qui peut se mettre en place, ou si quelque chose de négatif arrive, eh bien le mouvement sera plus modéré ou plus canalisé, on va dire, parce que les opérateurs seront déjà prévenus. Donc c'est une mesure objective de l'état d'esprit des opérateurs, et c'est surtout une mesure instantanée, contrairement à la volatilité historique qui, elle, mesure ce qui s'est passé avant. Là, on mesure ce qui se passe instantanément et le prix auquel on assure et on se protège.
Cette question d'auditeur, d'ailleurs, pour rebondir sur ces législatives, leur impact sur le marché, il s'appelle Altrien. Est-il temps, nous demande Altrien, de se positionner d'ores et déjà sur les valeurs bancaires qui ont fortement chuté, ou serait-il plus sage d'attendre au moins le résultat des législatives ? Aymeric ?
Je pense que là, très clairement, il y a pas d'urgence, notamment quand même garder à l'esprit que, un, c'est un secteur qui a très très bien fonctionné depuis le début de l'année, alors qu'il c'est consolide vrai. Depuis quelques semaines, mais qui avait très bien fonctionné auparavant. Et deux, les banques françaises détiennent plus de 20% de la dette française. Donc si post-législative, on a une explosion des coûts de la dette française, ça va être très négatif pour les bilans des banques françaises, et donc avec un impact sur leur cours de bourse qui sera une nouvelle fois très importante. Et en plus de ça, forcément, la prime de risque augmente, donc les banques sont touchées et le coût d'actualisation augmente également pour elles.
Éric, cette question de Altrien, donc notre auditeur téléspectateur qui nous a écrit, c'est très facile de nous écrire, hein, il suffit de flasher ou scanner le QR code qui apparaît régulièrement sur vos écrans. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Il faut revenir sur le secteur bancaire ou on attend ?
Bah, je serais un petit peu plus positif de ce qui vient d'être dit. En fait, on a une décote sur l'actif net de BNP Paribas de l'ordre de 40%, du Crédit Agricole 40%, et entre 60 et 70%, ça c'est général. On a les taux de rendement qui frôlent les 8% pour Crédit Agricole et BNP. On a les PER qui sont avec deux points de différentiel avec l'historique 5 ans et 10 ans qui est quand même relativement faible. Hein. Donc on se fait 6,5 fois le PER de la BNP avec des résultats qui se tiennent bien, des entreprises qui sont extrêmement solides avec une grosse solvabilité. Donc évidemment, on voit bien que ce sont les banques qui font partie des secteurs les plus touchés par l'aversion au risque. Hein. Quand on regarde la BNP depuis le 7 juin, on a perdu par rapport au marché 7% de plus, 13% pour la Société Générale et 10% pour le Crédit Agricole. Donc, il y a eu un beau retour. Oui, acheter avant la résultat des élections, c'est peut-être un petit peu trop aventureux. Mais je pense, enfin, à moins que, encore une fois, hein, que le scénario donc d'un front populaire qui arrive au pouvoir, là, effectivement, je pense que la bourse et les banques seraient très affectées. Mm-hmm. Mais sinon, je pense que on a déjà bien reculé. Donc, je dirais pas d'acheter à fond, mais de garder des positions, en tout cas.
Oui, on a quand même, alors voilà, on a quand même, là, quand on regarde par exemple sur Investing, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, il est 80 points, là, malgré tout. Oui, malgré tout. C'est-à-dire que c'est quand on regarde, c'est quand même, on retrouve les niveaux les plus hauts, largement même, depuis l'annonce de la dissolution sur l'écart France-Allemagne aujourd'hui. Aymeric.
Mais ça va pas dans le sens des banques, et c'est cohérent par rapport à plusieurs ratios d'endettement du gouvernement. En fait, on était sur des niveaux qui étaient artificiellement bas pour la France, et finalement c'est un repricing assez normal, assez logique, et ça touche bien évidemment en premier lieu les banques. Alors après, c'est vrai que ça reste pas très cher, c'est certain.
Étienne, depuis la tour Euronext, nous signale on est à 82 points d'écart de taux là désormais entre la France et l'Allemagne. On suit tout ça très très près, bien évidemment, et puis on regarde aussi le reste du marché. Important, OVH par exemple, il y a quelques bonnes nouvelles dans ce marché français qui sous-performe les autres marchés. OVH Cloud, ce soir, après la publication de ses résultats et de ses perspectives, semble se réveiller. 13% de hausse pour OVH Cloud, de plus en plus de demandes des acteurs technologiques américains par exemple, mais pas que. Est-ce que cette publication vous convainc au point de justifier, à vos yeux, Aymeric, cette hausse de 13% ce soir ?
La hausse de 13%, elle fait suite à une baisse très violente. On était parti en ligne droite de 11 à 4,5, il me semble, en l'espace de 2 mois. Donc là, il y a un rallye de soulagement parce qu'ils ont reconfirmé les chiffres qu'ils avaient donnés après leur warning il y a 2 mois. Donc bon, c'est vraiment un rallye de soulagement. Quand on regarde en dessous et quand on regarde dans le détail, on voit quand même un ralentissement séquentiel très clair. Le troisième trimestre est moins bon que les deux trimestres d'avant. Et l'autre sujet, c'est la question des investissements nécessaires. C'est un métier où il y a besoin d'énormément d'investissements. Et OVH a une taille qui est peut-être trop petite dans ce métier pour structurellement réussir. Donc c'est pour ça que nous, on reste prudents sur cette société-là et sur ce cas d'investissement.
Votre regard OVH plus 13, est-ce que c'est déjà le moment de revendre Eric Blaine depuis Swiss Life Banque Privée?
Bah, Je suis assez d'accord avec Aymeric. Hein. Le sujet de cette entreprise, c'est sa taille et l'intensité capitalistique de cette activité dans un domaine où il y a des très gros joueurs. Et donc, on avait des niveaux d'investissement en proportion du chiffre d'affaires qui étaient à hauteur de 50% en 2021 et 2022. Depuis deux ans, on est descendu à 40%, ce qui leur permet en fait de générer un peu de cash flow libre des investissements de croissance, c'est-à-dire entre 220 et 250 millions d'euros. Mais le problème, c'est que comme ils veulent croître avant de faire des résultats, c'est qu'ils investissent ces 220-230 millions d'euros pour faire de la croissance. Du coup, il n'y a pas de dividendes et il n'y a pas de résultat net. Alors, il faut croire à la croissance, il faut croire qu'OVH va s'en sortir par rapport à nos objectifs européens, et il ne faut pas avoir envie d'avoir donc de rentabilité dans une entreprise qui, pour le coup, a beaucoup de dettes. Hein, bon, voilà. Donc, moi, je n'y vais pas et je ne conseillerais pas d'y aller. Voilà.
C'est dit. Une autre valeur, alors, qui, elle, se développe, c'est un beau groupe hein, qui marche bien en bourse, on va parler de Saint-Gobain, qui va en plus pouvoir se renforcer sur des marchés absolument stratégiques, l'Inde, le Moyen-Orient, l'Asie. Il s'agit donc de Saint-Gobain qui acquiert le britannique Fosroc. Pour combien ? Pour un peu plus d'un milliard de dollars. Est-ce que cette acquisition va lui permettre véritablement de renforcer encore son potentiel boursier qui était déjà important, qui avait déjà été identifié par les investisseurs, mais est-ce que vous estimez que ce potentiel, ce soir, après l'annonce de cette acquisition, est désormais plus important ?
Non, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça renforce la présence dans des pays où il y a de la croissance, je pense notamment à l'Inde. C'est relutif en termes de marge. Il y a un niveau de marge qui est supérieur de l'ordre de 19-20% contre 14-15% pour le groupe. Donc c'est une bonne nouvelle aussi d'un point de vue marge. Et surtout, ça leur permet de se développer dans un marché qui est clé. C'est les produits de spécialité chimique destinés à la construction. Et là, ça commence à devenir un pôle assez intéressant parce que c'est plus de 6 milliards d'euros, donc plus de 10% de leur chiffre d'affaires, avec des perspectives de croissance et de niveau de marge qui sont assez attractives. Donc, c'est-à-dire que le potentiel à long terme, à la fois de la croissance du chiffre d'affaires et des marges, s'améliore. Donc, nous, ça nous paraît être une acquisition assez intéressante, très clairement.
Une autre valeur qui distingue, alors à la baisse, et c'est pas la seule, H&M qui a publié ses résultats, ses perspectives. Le printemps, pas terrible sur une partie de l'Europe, a pesé sur les ventes d'H&M. Peut-être seront-elles les ventes en baisse au mois de juin, on verra. En tout cas, le titre H&M ce soir perd plus de 12%. Et on voit que quand le marché est déçu en ce moment, il sanctionne lourdement. H&M aujourd'hui, Alphen hier, qui sur sa publication, ses annonces, a perdu plus de 50%. On a vu Trigano en début de semaine aussi en net repli sur sa publication. Est-ce que ça, c'est le signe d'un marché qui va peut-être se montrer sévère à l'occasion des prochaine publication? Est-ce que la saison de résultats risque d'entraîner des sanctions à la moindre déception, Aymeric?
C'est clairement une possibilité en fait. Dès qu'il y a une déception, et là c'était le cas très clair pour H&M, parce que l'excuse du temps, je la trouve un petit peu légère. On voit qu'Inditex par exemple n'a pas du tout souffert de ça. Et donc dès qu'il y a le moindre doute sur la validité et la capacité de la société à croître dans le marché, tout de suite c'est sanctionné. Et effectivement, c'est annonciateur à mon avis de sanctions très sévères à venir potentielles à la moindre déception.
C'est votre avis aussi, Eric, pour la saison publication qui va démarrer?
Moi, j'ai quand même l'impression là qu'on s'intéresse pas mal au ralentissement de la consommation aux États-Unis. On voit d'ailleurs Levi's, c'est pareil, décroche aujourd'hui. On a eu des informations comme quoi la consommation est faible aux États-Unis. H&M, on voit ses ventes chuter de 6%. Du coup, elles baissent sensiblement. C'est clair qu'on est très attentif en fait au ralentissement américain, et en particulier, on a eu des mauvaises nouvelles dans la conso. Voilà, je pense que le marché va être bon. Les prix sont ça vaut 20 fois hein, quand même H&M, donc une déception, ça coûte cher en bourse. Voilà, donc je pense que c'est la consommation américaine qui est regardée attentivement. Et est-ce que ça va être ça, est-ce que bon, le marché va être nerveux, il va être nerveux avec les élections. On se rapproche des élections américaines aussi, donc les marchés sont assez élevés quand même de manière générale. C'est pas anormal quand même que sur des publications qui déçoivent, le marché réagisse
vous citiez
de façon Levi's, assez importante.
Vous citiez Levi's. Levi's à Wall Street perd 16% parce qu'avec la hausse des prix, l'inflation, les Américains mettent de plus en plus de temps à renouveler leur gamme de jeans. C'est ce que nous dit Levi's, et le titre Levi's perd 16% en ce moment effectivement à Wall Street. Il y a aussi Micron qui est pourtant bien exposé à l'IA, qui publie des perspectives qui sont conformes aux attentes. Elles sont fortes hein, ces perspectives, mais juste conformes aux attentes. Et on voit que le marché est de plus en plus gourmand sur la tech. On attend de plus en plus, et Micron, donc malgré ses belles perspectives, recule à Wall Street de 6%. Merci messieurs. de nous avoir accompagnés. Aymeric Lang pour Erasmus Gestion, Eric Blaine depuis les bureaux de Swiss Life, banque privée. Et puis ne ratez pas le bullshitomètre. À trois jours des législatives, Emmanuel Le Chypre est venu mettre les pieds dans le plat. Il a regardé les principaux programmes des différents partis en lice pour ces législatives et il nous a dit tout à l'heure dans le bullshitomètre si un pays peut à la fois être plus social qu'avant et mieux géré qu'avant. Être plus social et bien géré, mieux gérer ses finances publiques est-il possible? Il nous a apporté sa vision et sa réponse dans le bullshitomètre à retrouver en replay sur notre application BFM Business. Le CAC ce soir recule et surtout il perd plus d'1% quand même, troisième baisse d'affilée, il sous-performe et l'écart de taux avec l'Allemagne bondit à 80 points de base ce soir à quelques jours des législatives. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.